Donc on va continuer dans ce partage d'expérience avec des aumôniers qui vont venir. Et donc je vais inviter notamment Laurence Blondel à nous rejoindre, Sandrine Ray, Frère James, Aise, Johannes Lechner, Gilles Lecoq va nous rejoindre d'ici quelques minutes en visio.
Bonjour à toutes et tous, donc Laurence Blondel, je suis la régionale de l'État, c'est-à-dire que je travaille à l'INSEP avec mon illustre camarade Christine Ray aussi à côté, avec qui j'ai eu la chance d'être appelée pour faire la formation. Donc, je crois qu'on n'aime pas bien le terme formation avec Christine, c'était plutôt de la sensibilisation à ce que c'est qu'un sportif de haut niveau dans son quotidien. Alors, principalement ce que je fais, donc moi je suis ex-sportive de l'INSEP, hein, j'étais avec notre illustre Philippe Bonigam sur les pistes d'athlétisme à l'INSEP. C'était au temps des dinosaures, donc on n'en parle plus. Mais ce que je fais donc dans mon quotidien, je suis accompagnatrice, coach de vie pour les sportifs de niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je les accompagne dans leur projet de formation et leur projet de professionnalisation. Donc je suis coach, je suis accréditée coach. Et ce qui est important dans ce métier, c'est pour ça que donc j'ai noté pas mal de choses pendant que vous interveniez tous, les uns les autres. Ce qui est important, c'est le terme accompagnement. Au quotidien, ce qui est important, et c'est pour ça que le pourquoi et le comment on est arrivé dans cette belle aventure des Jeux Olympiques avec l'aumônerie, c'est qu'à un moment donné, c'est cette sensibilisation à un public qui est particulièrement spécifique, mais comme tous les publics, mais nous, notre fonds de commerce, entre guillemets, c'est donc le sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui se définit bien souvent par je fais de la performance, je suis de la performance, mais pas que. Et nous, en tant que, parce que nous sommes quatre, en tant que coach accompagnatrice, nous les accompagnons dans ce qu'ils sont en tant qu'homme ou femme. Et ce qui est important, c'est ça, en fait, c'est ce parcours. Et quel est le lien avec la foi et avec ce qui se passe ici, c'est que j'ai bien écouté et j'ai bien aimé ce matin lorsque vous avez parlé du jeu, JEU. Et nous, on parle du je et du jeu. C'est-à-dire qu'un sportif de niveau, il faut qu'il puisse se définir en tant que je, parce que bien souvent, il se définit par rapport à une performance et pas en tant que personne. Et ça, c'est très, très important. Mais aussi, ce qui fait la performance, c'est parce qu'ils prennent du plaisir. Et parce qu'à un moment donné, c'est du jeu, même si on pourrait avoir des interrogations, le jeu est important, c'est-à-dire que sans jeu, sans plaisir, on ne peut pas faire performance. Si on fait un petit reset, si vous revenez sur donc les grosses performances de nos Français, et donc notamment de Léon Marchand, qu'est-ce qu'il dit, notre nageur français? Il dit, moi je fais des perfs parce qu'à un moment donné, j'étais pas bien dans mon corps, j'étais pas bien dans ma vie, et pourtant j'étais performant. Et là où j'ai explosé les plafonds, c'est lorsque j'ai été accompagnée à un moment donné, me reconnaître moi, ce que je suis moi, c'est-à-dire mon moi avec un grand L, parce que j'ai pris du plaisir et parce que je m'amuse en faisant de la perf. Et nous pensons, enfin, je ne sais pas, c'est pour ça que ce serait intéressant aussi de voir aussi avec Christine, c'est peut-être un point sur lequel on n'a pas trop, donc on n'a pas trop échangé, mais pour autant, comme on est issus du même vin, c'est que à un moment donné, la foi et le rapport à la religion fait aussi qu'on se définit quelque part. Nous, en tant que coach, on dit il faut être aligné. C'est la grosse discussion que j'ai eue avec Sandrine à midi. C'est-à-dire que un sportif de niveau, c'est quelqu'un qui est toujours en déséquilibre. Il n'est pas déséquilibré, il est en déséquilibre. Ce qui est important, c'est de retrouver cet équilibre. Pas par tous les moyens, mais par son chemin, son vrai chemin. Et nous pensons que la religion peut très bien en faire partie. Deuxième reset, pour quelle raison, puisque c'est la question que Philippe me posait par rapport à éventuellement peut-être une aumônerie à l'INSEP, ce qui est en gros débat à l'heure actuelle. Donc je regarde également Isabelle et puis donc Jason que je remercie infiniment. Oui, effectivement, c'est en questionnement. Pour quelle raison? Parce que il y a eu l'engouement des Jeux. Il y a eu cet engouement à un moment donné en disant, eh ben mince, il y a donc une aumônerie au sein du village olympique, on peut y venir, on peut parler, on peut se rencontrer, on n'a pas peur. On n'a pas peur de dire que l'on est chrétien, que l'on est musulman, etc., etc. On n'a pas peur, on peut en parler. Et maintenant, l'héritage de ça, c'est que moi qui accompagne les sportifs au niveau du matin au soir, donc je fais à peu près 7 heures d'entretien avec l'ensemble des sportifs au niveau toute la journée, c'est que il y en a un certain nombre qui sont venus me voir en disant: mais dis donc, on ne savait pas qu'il y avait donc l'aumônerie, mais c'est vachement bien. Donc maintenant, ce pas, c'est-à-dire qu'ils endossent ce costume avec cette petite capsule en plus de dire: eh ben, moi je suis catho et donc c'est pas grave et donc moi je peux en parler. Et ça ne veut pas dire je vais revendiquer quoi que ce soit, mais ça fait partie de ma personnalité. Donc certainement, c'est un lieu d'écoute et je rebondis aussi sur ce que disait Jason, à savoir que c'est pas du prosélytisme, c'est pas de la revendication. À un moment donné, c'est donner la possibilité à chacun et chacune des sportifs de haut niveau au sein de l'INSEP, dont je me permets de parler que de l'INSEP, de pouvoir aussi dire: eh ben moi j'ai envie de temps en temps d'aller parler, j'ai envie d'aller échanger, j'ai envie de pouvoir confronter mes idées. Parce que dans les moments difficiles, une carrière de sportif de niveau, c'est ce que disait très bien Philippe, parce que nous l'avons connu aussi, ainsi que Christine, c'est que quand tout va bien, c'est super. Quand on fait pas de perf, c'est l'enfer. D'accord? Et puis, il y a tous les moments de blessure, etc., etc. Donc, c'est pas se raccrocher à quelque chose, mais ça fait partie d'une entité. Et un sportif de niveau ne se résume pas à être quelqu'un qui fait une performance. Pas du tout. Les entraîneurs, les coachs sont là pour les entraîner, les accompagnants, quels qu'ils soient, et c'est là où on a une grosse discussion à midi, encore une fois, avec Sandrine. Ça fait partie donc d'une écologie du système et ça fait partie d'une vision holistique aussi du sportif de niveau. Et ça, c'est très, très important. Donc, une aumônerie, oui, pourquoi pas, mais il y a aussi des conditions. Vous savez qu'il y a tout l'aspect institutionnel, il y a tout l'aspect politique, il y a tout l'aspect peut-être financier, etc. Mais c'est quelque chose de très sérieux. Et lorsque j'ai pu discuter avec notre directeur général, parce qu'il nous a donné donc l'autorisation avec Christine de pouvoir former les aumôniers du village olympique, parce qu'on ne part pas comme ça, on ne dit pas: bon, je vais faire ça, on a quand même une tutelle. Je dis: mais, et par rapport aux autres religions, parce que nous avons des sportifs au niveau de toutes les religions, il dit: ils n'ont qu'à demander. Et donc là, on est en plein dans la laïcité, de mon point de vue. C'est-à-dire que c'est ouvrir les mains, ouvrir les bras, et pourquoi pas. Donc, nous sommes en bonne voie, je ne sais pas. Après, les maîtres d'œuvre sont Monseigneur Gobillard, Masseret, Isabelle et donc Jason. Et donc, voilà, nous verrons. J'ai essayé d'être assez rapide pour ne pas prendre du temps de parole sur mes camarades de gauche. Ça, c'est l'aspect sportif où on va direct à la perf.
Merci beaucoup. On continue.
Bon, d'accord. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je m'appelle Frère James Hayes. Je suis frère de l'instruction chrétienne de Ploermel, une congrégation de frères enseignants d'origine bretonne. Actuellement, je vis en Finistère, à Châteaulin. Mais je suis d'origine anglo-irlandaise et j'étais professeur de collège-lycée en Angleterre pendant presque 30 ans. D'abord la musique, mais aussi j'ai donné un coup de main avec des équipes sportives. Je suis arrivé aux Jeux Olympiques comme aumônier à Paris par le fait d'abord que j'étais licencié dans un club de vélo en Angleterre. Et grâce à des expériences que j'ai vécues dans ce club, je suis un peu par hasard, je me suis retrouvé un peu dans le rôle d'aumônier pour mon club de vélo, sans avoir vraiment le titre officiel. Et quand j'ai déménagé vers ma ville natale de Southampton, et on vécu surtout à Liverpool avant, travaillé là aussi, j'ai retrouvé un franciscain à Southampton qui venait de prendre sa retraite du rôle d'aumônier du club de foot de Southampton, club professionnel. Il y a beaucoup d'aumôniers de ce type en Grande-Bretagne. Et c'est lui qui m'a encouragé à candidater pour les Jeux de Londres. Donc, en tant qu'aumônier, j'ai pu intégrer l'équipe de Londres. Et puis ensuite, quand j'ai déménagé en France il y a 4 ans, j'ai candidaté pour Paris et j'ai eu la grâce d'être accepté par les organisateurs Holy Games. Je ne vais pas revenir sur ce que Isabelle et Jason ont tellement bien dit tout à l'heure sur l'expérience global du village. Je suis totalement d'accord avec leur bilan. Je vais peut-être partager quelques petits souvenirs et expériences personnelles qui n'ont pas été soulignées peut-être aussi. D'abord, le fait qu'on avait un très bon outil qui avait été préparé pour nous au village, un Nouveau Testament des sportifs. que nous avons mis à disposition des athlètes, toutes les personnes qui sont venues au village. Et en plus, l'équipe Holy Games a eu la générosité de rendre ce Nouveau Testament disponible à tout le monde dans le pays qui voulait s'en servir dans son diocèse, dans sa paroisse, dans le travail auprès des jeunes. Et donc, moi, j'en avais commandé beaucoup pour notre diocèse et surtout pour les collèges lycées que je visite dans mon rôle de délégué diocésain de la pastorale du sport pour témoigner de l'expérience olympique. Et c'est un outil pour lequel je ne cesse de recevoir des échos très favorables. Je reçois des demandes même encore ces derniers jours, est-ce qu'il en reste quelques exemplaires. Donc ça, c'était un très bon outil qu'on proposait aux athlètes et aux entraîneurs et bénévoles qui venaient dans le monastère. Et ils s'en servaient, ils partaient avec leur copie du Nouveau Testament qui contient des témoignages de sportifs de haut niveau. Donc une quinzaine, vingtaine de témoignages, y compris une des athlètes qui est venue animer le temps de prière dont parlait Jason tout à l'heure. Une athlète australienne. La question de la visibilité et le fait de ne pas avoir le même statut que les autres bénévoles, ça c'était pour moi un contraste avec mon expérience à Londres, parce qu'à Londres, les aumôniers faisaient partie des bénévoles officiels. Donc on avait le même statut, le même uniforme. Donc les prêtres, par exemple, qui étaient mes collègues au village, moi, j'étais basé à Weymouth, en fait, pas à Londres même, mais chez les voileux, les marins. Ils avaient le droit de porter le corps romain sous le maillot de bénévole, mais c'était quand même un peu moins visible. Mais un des avantages, c'était qu'on n'avait pas de restrictions pour circuler dans le village olympique. Et ça, c'était plutôt habituel pour les aumôniers, et je pense que ça va être pareil pour Los Angeles. Et puis donc quand il y avait des temps creux dont parlait Jason, souvent moi et les autres aumôniers, on se rendait au quartier général pour rendre service, pour se débarrasser, j'ai un peu de temps, qu'est-ce que je peux faire pour aider, et c'était une manière d'aller à la rencontre de l'autre, et comme ça on a pu commencer des conversations et à travers les conversations faire connaître qu'on était là en tant qu'aumônier. Donc c'était une autre type d'expérience. Je ne dis pas que l'un était mieux que l'autre, mais que les deux ont des aspects très intéressants qu'il faut peut-être garder en tête pour l'avenir. Ensuite, il y a la question de la fraternité interreligieuse qui m'a beaucoup marqué. Vraiment, c'était une première pour moi, parce qu'à Weymouth, pour les Jeux de Londres, la permanence de l'aumônerie, c'était uniquement des chrétiens. On avait des numéros de téléphone pour appeler un imam ou un rabbin, si on en avait besoin, si quelqu'un en avait besoin. Mais la permanence, c'était des catholiques, protestants, orthodoxes. Donc là, être avec des musulmans, des juifs, des bouddhistes, des hindous, pour moi, c'était une vraie joie. Et je n'oublierai jamais une petite fête qu'ils ont organisée chez les hindous pour l'anniversaire de Krishna. Ils ont fait un banquet, ils ont préparé un banquet, ils ont invité tous les aumôniers. Et j'ai fait une photo pendant qu'on était en train de manger juste en dehors de leur salle. On était alignés, un imam, un diacre catholique, un moine bouddhiste, un prêtre orthodoxe et moi un frère religieux catholique. Et c'est, en Angleterre, on commence des blagues comme ça. On dit qu'un imam, un bouddhiste entre dans un pub. Et c'était comme ça, c'était comme le début d'une blague, mais c'était quelque chose de réel. Et c'était très fraternel, on se marrait entre nous. La suite de ça, après les Jeux, j'ai eu quelques demandes pour témoigner de mon expérience, y compris d'un organisme à Brest, Crédit 29, Culture et Religion en Dialogue. Et ils ont vu une interview que j'avais donnée pour un des journaux de la Bretagne, le Télégramme, et ils m'ont invité à donner une intervention à l'Université de Brest sur l'expérience multiconfessionnelle. Et j'ai dit que ça n'aurait pas de sens vraiment si j'étais tout seul. Quand j'ai contacté les deux responsables des équipes d'aumôniers musulmans et juifs, donc Najat Ben Ali, chez les musulmans, une femme, et Moshe Lewin, rabbin parisien, qui se connaissaient déjà très bien avant les Jeux, donc ils avaient l'habitude de collaborer sur des projets ensemble. Donc moi j'étais en présentiel et les deux autres en distanciel, par visio. Et on a présenté un peu comme on fait ici nos expériences respectives au jeu, mais avec beaucoup d'humour. Et on s'est taquiné entre les trois. Et c'est ça que les gens ont retenu après, c'était que on avait du plaisir à passer du temps ensemble et de se marrer, raconter des blagues, se taquiner. Et je pense que ce témoignage-là, c'était peut-être la chose la plus importante de la soirée. Ça m'a beaucoup marqué. Bon, je vais terminer avec un dernier point qu'on a déjà mentionné, le fait que les Jeux Olympiques, c'est un événement ponctuel, événementiel, et je pense que le défi maintenant, ça va être peut-être comment créer un accompagnement dans la continuité, où les aumôniers vont peut-être être disponibles pour cheminer avec les athlètes. Donc ça, c'est autre chose, un changement de registre, mais je pense qu'on est déjà en train de réfléchir là-dessus.
Merci, James.
Si, alors, moi, c'est Sandrine Ray, je viens de Suisse, j'habite à Lausanne. Donc, comment je fais ? Donc, je travaille à Lausanne avec une organisation chrétienne qui s'appelle Athletes in Action, qui est une organisation œcuménique qui mandate les aumôniers pour la Suisse. Donc, s'il y a des demandes d'aumônerie, on va faire appel à cette organisation et on peut mettre à disposition des aumôniers en milieu sportif. Je suis aumônière officiellement avec Athletes in Action à 60% depuis 2019. Et puis à côté, je travaille aussi, je fais des accompagnements sportifs à visée thérapeutique, donc activité physique adaptée, dans une institution de court séjour psychiatrique. Donc c'est deux activités qui sont assez complémentaires, qui me permettent justement d'avoir aussi accès à des formations en santé mentale, qui est une grande partie des problématiques qu'on trouve dans le sport. Au niveau comment j'en suis arrivée à l'aumônerie sportive, parce que je suis aussi moi-même une ancienne sportive de haut niveau. J'ai notamment joué avec l'équipe nationale suisse de hockey sur glace et j'ai eu la chance de participer en 2006 aux Jeux Olympiques. Et c'est lors de cette participation à ces Jeux-là, à Turin, que j'ai eu l'occasion de rencontrer des aumôniers, donc au centre interreligieux. Et pour la première fois de ma vie, des personnes ont prié avec moi en compétition. Et ça paraît anodin, donc ça peut être anecdotique pour des personnes qui ont l'habitude de vivre la vie à l'église. Et pour moi, à ce moment-là, et pour les athlètes en général, c'est souvent quelque chose d'assez extraordinaire. Et ça m'a tellement marqué qu'à la fin de ma carrière, j'ai eu à cœur de pouvoir proposer aussi ces services-là et de pouvoir servir les athlètes en tant qu'aumônière, parce que j'avais justement bénéficié de ces services-là, qui je trouvais tellement important. Dans ma formation à l'aumônerie, j'ai eu l'occasion aussi de me rendre aux Jeux Olympiques de Sochi en 2014 avec le CIO. J'avais un mandat avec le CIO. En 2016, j'ai pu être aumônière accréditée dans le village pour les Paralympiques de Rio en 2016. Donc, c'est intéressant de pouvoir vivre les Jeux Olympiques et Paralympiques dans des rôles différents et de voir toutes les différentes choses, parce que c'est vrai qu'en tant qu'athlète, on a une vision, en tant qu'aumônier, on a une vision, et puis en tant qu'officiel, on a une autre vision, et puis j'ai pu vraiment voir un peu je dirais, l'envers du décor aussi, et découvrir un peu le tout. Donc j'ai pu aussi, dans le cadre de l'aumônerie, aller à différents événements, comme des championnats du monde, les jeux européens, qui sont les Jeux Olympiques européens par exemple. Mais comme on a dit et qu'on a partagé, ce sont des événements où il est difficile d'avoir un lien qui reste avec les athlètes. On ne les connaît pas, ils viennent et puis ils repartent. Et pour moi, le propre de l'aumônerie, c'est vraiment cet accompagnement sur le long terme. Et c'est ce que je fais sur le quotidien. Donc on a des services où on accompagne des jeunes sportifs élites. On a des groupes de jeunes athlètes élites en Suisse. Donc on accompagne ces jeunes avec aussi souvent les parents qui sont bien démunis quand leurs jeunes entrent dans le système pro sportif. C'est un système vraiment très compliqué, un peu comme je dirais une jungle des fois. Et on a beaucoup de parents démunis qui ont besoin d'aide, aussi besoin de soutien pour savoir comment être aidant et soutenant pour leurs jeunes dans ce système-là. Comment accompagner les jeunes aussi pour justement avoir une vie équilibrée à tout niveau et pouvoir bien les accompagner dans ce système. On parlait avant et je rejoins vraiment tout ce qui a été dit et partagé par tous les intervenants et cette idée de personnes vulnérables. Et moi, je vois aussi des personnes captives d'un système. Et c'est là aussi où il y a la pertinence d'être des porteurs d'espérance, mais aussi cette incarnation de Jésus qui vient pour libérer les captifs dans un système qui peut être très enfermant. Et donc on accompagne les jeunes élites, on accompagne aussi bien sûr les athlètes actifs, et mon cœur est aussi d'accompagner les athlètes en fin de carrière, quand il n'y a plus personne souvent, quand les clubs et les fédérations se déchargent parce que les athlètes ne rapportent plus rien. Et là aussi, je pense qu'on peut vraiment incarner l'amour de Jésus qui reste quand il n'y a plus personne et qui montre que justement ce sont des personnes, des êtres humains avant tout, et pas que des athlètes, et que ces personnes comptent aux yeux, à nos yeux et aux yeux de Christ. Donc l'idée aussi, c'est pour ça que je travaille beaucoup à l'international, c'est de pouvoir aussi développer des ressources pour accompagner les athlètes après carrière. Peut-être un, deux mots, s'il y a encore quelques minutes, sur des expériences vraiment pratiques, peut-être que j'ai pu rencontrer à différents événements. On parlait, les aumôniers, on est aussi souvent contactés, mandatés quand il y a des crises majeures, comme des décès par exemple. Et c'est ce qu'on a pu vivre en Suisse l'année dernière, avec notamment le décès d'une jeune cycliste pendant les mondiaux à Zurich. Je ne sais pas si vous avez entendu cet événement. J'en parle parce que ça a été relayé par les médias, et aussi notre apport avec Athletes in Action a aussi été rendu public dans les médias, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler. Et c'est là aussi où souvent les fédérations ou les coachs et les clubs sont démunis face à ce genre de situation et font appel à nous. Donc on a pu vraiment accompagner aussi toute l'équipe de Swiss Cycling dans ce genre de situation. J'ai rencontré aussi des fois, ça peut paraître anodin aussi, où vous direz, mais on ne devrait pas exister pour moi des fois. On ne devrait pas exister pour des choses toutes simples, simplement recueillir les émotions des athlètes. Ça paraît banal et on peut se dire que les athlètes ont des parents, des conjoints vers qui ils peuvent se tourner. En fait, ce n'est pas toujours le cas. Et ce qui est assez étonnant parce que c'est des personnes ultra médiatisées et vraiment entourées de plein de personnes, de plein d'acteurs, mais qui, je dis souvent, sont des personnes très isolées. Surtout pour tout ce qui est justement du partage de ce qu'ils vivent vraiment intérieurement et des émotions. Et un petit exemple que je peux vous donner, c'est lors d'une édition des Jeux Olympiques d'hiver, j'avais une jeune de 16 ans qui venait du slopestyle, je ne sais pas si vous connaissez cette épreuve. Donc c'est un petit parcours en snowboard ou en ski suivi de trois grands sauts. Et puis c'est souvent des athlètes qui ont entre 15 et 20 ans, je dirais, qui font ce genre de sport. Et c'est ce qu'on retrouve de plus en plus aussi aux Jeux Olympiques ou aux compétitions. On ne se rend pas compte parce que nous, on s'imagine toujours des athlètes comme des personnes très matures, c'est ce qu'on voit aussi dans les médias. Mais souvent, ce sont des jeunes, des très jeunes, hein, qui sont très matures pour plein d'aspects, mais qui restent des jeunes aussi de 16 ans. Et j'avais cette jeune de 16 ans qui arrivait pour ses premiers Jeux Olympiques. Première expérience, c'était un sport de démonstration aussi à ce moment-là. Et puis, et comme c'était un sport de démonstration, les sauts étaient plus grands que ce qu'ils avaient l'habitude de faire pour que ce soit justement assez exceptionnel à voir au niveau médiatique aussi. Et cette jeune, je la retrouve juste après son entraînement d'essai. Et elle est venue me confier qu'en fait, elle était terrorisée. Voilà, terrorisée de peur parce qu'elle n'avait jamais fait ce genre de saut. Que justement c'était très compliqué de pouvoir en parler au coach qui va certainement dire qu'il faut laisser ça de côté, maintenant on est au jeu, il faut penser à autre chose. Très difficile aussi d'en parler avec la famille qui au téléphone demande sur quelle chaîne pourra être vue, sur quelle chaîne de télévision. Difficile de pouvoir dire à ce moment-là j'ai peur. Et simplement recueillir ça, c'est ni plus ni moins, mais ça peut être serait quelque chose d'énorme pour un athlète. Alors, comme je dis, ce serait l'idéal, on n'ait pas besoin d'exister, que l'entourage soit bienveillant et puisse traiter les athlètes comme des êtres humains. Mais comme c'est un système souvent basé sur le business, la présence d'aumôniers a toute sa pertinence, non seulement pour rejoindre les êtres humains, comme on a dit, accueillir, recevoir, aimer les personnes, c'est tellement essentiel. Voilà, d'avoir cet espace pour eux, et d'autant plus dans ce milieu-là où si tout le monde est lié, les coachs, les médecins, chaque acteur est lié à une fédération, employé par une fédération, et les aumôniers sont, à mon sens, encore des personnes neutres, souvent justement pas financé par une fédération, ce qui permet vraiment aux athlètes d'avoir un lieu sécur, confidentiel et neutre, justement pour pouvoir se confier librement sur tout ce qu'ils vivent. Et ça, c'est très précieux. Voilà pour les quelques partages.
Merci Sandrine. Younes.
I have to speak in English. I'm sorry. But I try to do the second part of my presentation in French. Yeah, but I'm Johannes Lackner, the chaplain of the Austrian Olympic and Paralympic team. So it's like some other nations such as Italy and Germany, the Austrian Olympic Committee and also the Paralympic Committee traditionally takes a priest along to the Olympic Games as a support person also. So just as there is a doctor and a psychologist on the support team, there's always a priest on the team as well in Austria, you know. And this practice has been in place in Austria since 1972. The church in 1972 offered to collaborate to the Austrian Olympic Committee, and they accepted. The church offered to collaborate, and since then, since 1972, there's an official chaplain of the Austrian Olympic team. And since 2000, a priest also has been part of the team at the Paralympic Games. So since 2000, also a priest is at the Paralympic Games.
Donc, il est l'aumônier des équipes olympiques et paralympiques officielles d'Autriche. C'est un rôle qui a été instauré en 1972 pour l'équipe olympique et en 2000 pour l'équipe paralympique. Et il est vu comme un membre de l'entourage, comme les médecins et les autres services de l'équipe. Ils ont toujours un prêtre parmi les personnes qui sont au service des athlètes.
And I'm now only the fourth priest since 1972 to hold the position of the Olympic and Paralympic chaplain in Austria. And it is good if one person performs this task for as long as possible, because it's very important to build trust with those responsible at the Olympic and Paralympic Committee, the coaches and the athletes, and that takes time, so it's good if one person does this as long as possible. My predecessor, I have to say, a Silesian priest named Bernhard Meyer, was an Olympic chaplain for over 30 years, and he was even made an honorary member of the Olympic Committee. He truly dedicated his life to sport, and he was very important in this role as an Olympic and Paralympic chaplain.
Donc, le père Johannes est le quatrième aumônier officiel de l'équipe d'Autriche depuis 1972. Il dit que c'est important d'avoir cette continuité, comme on a dit tout à l'heure, pour établir des relations de confiance avec les athlètes, mais l'entourage aussi, le comité olympique. Et un de ses prédécesseurs a eu ce rôle pendant 30 ans. Et il a été honoré à la fin de son mandat.
I'm the Olympic and Paralympic chaplain only for 3 years now, so the Olympic and Paralympic Games in Paris were my first Olympic and Paralympic Games. And as an Olympic and Paralympic chaplain, I was able to be present at the closing ceremony where we got the clothes, and the farewell by the federal president in Vienna. And then in Paris, I could accompany the athletes at the opening ceremony. I was in the Olympic Village every day. I was present in the Austrian team lounge in our house, and there I was available for conversations with anyone who wanted to talk. In addition to a lot of small talk, there were also deep pastoral conversations. And I prayed with several Olympians before their competitions and blessed them. I also gave them miraculous medals, you know, before the competition. I got some at Rüdebach and then I gave it to the athletes, which they gladly accepted. So it's fair to say that no Austrian athlete went home without a medal.
Johannes est dans son rôle depuis 3 ans. Donc les Jeux de Paris étaient ses premiers Jeux olympiques et paralympiques. Il a pu assister à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques et la cérémonie d'ouverture des Jeux para. Il était présent tous les jours dans le village auprès des athlètes et des entraîneurs. Il a eu beaucoup de conversations, parfois des choses très simples, mais parfois des choses beaucoup plus profondes et spirituelles. Il a répondu à des demandes de prière, prier avec les athlètes, prier pour eux, et il a acheté des médailles miraculeuses à la rue du Bac qu'il a distribuées aux athlètes, et chaque athlète autrichien est entré chez lui avec une médaille.
I always said that the medals did not work like a talisman, not a magical way. They are simply a sign of blessing, expressing that God loves and protects you. So I noticed that before the competitions, the athletes were only interested in short conversations, interestingly. But after their competitions, I talked to some of them for an hour or two, even, especially if things had not gone well. The concerns were varied. One athlete was interested in faith, and I spent several hours talking to him generally about our faith. Another was a member of an evangelical church, and I read the Bible with him and went with him to the multi-faith center for ecumenical prayer also. And one athlete came to me completely devastated because he had fallen ill just 2 days before his competition. He had trained so hard, had the chance to win a medal, and had done everything he could to avoid getting sick, you know, always wearing a mask also. And yet he was the one who fell ill. And then he asked me, why does God allow this to happen? So this is a difficult question also. And yeah, but I recognized and I noticed that most of the athletes were happy to talk to someone who is not in the inner circle of the team, but to have someone whom you can talk to without having to justify your performance, you know, so it's a performance-free zone, so a gift to athletes also.
Il a expliqué aux athlètes que le don des médailles miraculeuses était simplement un signe de bénédiction de Dieu et de l'amour de Dieu pour eux. Il a eu des conversations plutôt courtes avec les athlètes avant leurs épreuves, mais après leurs épreuves, des conversations beaucoup plus longues, beaucoup plus personnelles, beaucoup plus profondes. Des athlètes qui voulaient partager telle ou telle expérience qu'ils avaient vécue pendant les épreuves. Par exemple, un athlète qui avait tout fait pour ne pas attraper les microbes pendant son séjour au village, mais qui est tombé malade 2 jours avant son épreuve. Et qui, ça l'a beaucoup affecté moralement et puis dans son corps physiquement aussi. Et il est venu parler de cela avec Johannes après. Il a noté aussi que les athlètes semblaient être contents d'avoir quelqu'un auquel ils pouvaient parler en dehors de leur cercle d'entraîneurs, cercle d'équipe officielle, quelqu'un qui était justement en dehors de cette pression de performance, de haute performance, quelqu'un qui était simplement là pour écouter, pour être là à côté des athlètes, mais sans cette pression de performance derrière.
And I also had confessions in the Olympic Village. Before the competition, I tried to motivate the athletes, and after the competition, I tried to share the joy or offer them support. I wanted to be close to the athletes through my faith. In addition to talking and meeting with the athletes, my job was also to offer church services at the Multi-Faith Center. I was also a member of the international team, as Jason, you talked about that already. And I thank you very much for accepting me as a member of the international team. I thank you very much for that. And it was also a great experience. And there I celebrated international masses also, but also masses only for the Austrian team. There are services only for our athletes also. And it was not so easy due to the varied schedules and training sessions. It was not easy to find the time when all interested athletes were available. Sometimes only a few athletes came, but those who were there said it was a great source of strength for them and a welcome time of rest amidst the hustle and bustle of the games. Yeah, I noticed that the athletes at the Paralympics were even more open about their faith than those at the Olympic Games. It was also something I recognized. Overall, I got the impression in Paris that faith can also be a source of strength in top-level sport and that my presence was appreciated. And as a chaplain, it's simply wonderful to experience the great emotions so closely, the highs and lows associated with the Olympic and Paralympic competitions, with victory and defeat.
Il a pu proposer le sacrement de la réconciliation aux athlètes de son équipe. Avant leurs épreuves, il essayait de les aider en donnant une motivation à travers le sacrement et après le partage de la joie ou du soutien si les épreuves ne sont pas déroulées comme il voulait. Mais à travers cela, pour lui, l'important c'était de proposer un soutien par sa foi et d'exprimer sa foi à travers le don du sacrement. Il était heureux de pouvoir s'intégrer dans l'équipe internationale des aumôniers. Donc il a travaillé avec nous à l'aumônerie du village. Et il a pu célébrer les messes dans l'église dont on a parlé, qui était juste en dehors du village. Des messes internationales ouvertes à tout le monde, mais aussi des messes qu'il a pu organiser pour les membres de son équipe spécifiquement. Même si ce n'était pas toujours facile pour eux d'être présents parce qu'ils avaient des contraintes avec les heures, les entraînements, les épreuves, etc. Il a, comme on a dit déjà, il a trouvé que les Paralympiens étaient plus ouverts dans les conversations qu'il a pu avoir avec eux. Et globalement, il constate que la foi peut être une source de soutien pour les sportifs de haut niveau dans la réussite et dans l'échec.
And in addition to the Olympic Village, I also worked at the Austrian House, I could go there, which is a meeting place for business, politics and the athletes' families. I think every nation or most of the nations have their own house outside of the Olympic Village as a meeting place of the of business, politics and so on. And there, my presence at the Austrian House allowed me to represent the faith and the church and to establish contacts also among the political and business leaders of Austria, you know. So it's also an important role of my as an important task of my role to be there and to make the church present also at the Olympic Games, you know, the faith present also among the political leaders there. Yeah. And the Olympic and Paralympic pastoral care is of course about the athletes, ensuring that they receive the best possible care, including care for their souls. And that is the sole aim of pastoral care at the Olympics and Paralympics. But it must also be said that as a side effect, this pastoral care also promotes the faith and the church. Many television stations, for example, and newspapers in Austria reported on my work in Paris, and that was also a positive testimony on the faith. So it was a good press for faith and for the church also in Austria, you know, my task there in Paris. Yeah.
Il dit que il y avait une, comme je pense pour la plupart des pays, une maison, un lieu en dehors du village où les officiels, les familles des athlètes, etc., pourraient se retrouver avant ou après les épreuves. Et il a pu être présent à plusieurs moments dans ce lieu en tant que aumônier et donner un témoignage de la présence de quelqu'un de foi dans ce lieu. Il a été interviewé par la presse dans son pays, donc il y avait pas mal de témoignages qu'il a pu donner qui ont été rapportés chez lui. Et il a eu de très bons échos, et c'est une autre manière de témoigner de sa présence. Il dit aussi que l'accompagnement qu'il a pu proposer, l'accompagnement pastoral, de prendre soin des âmes des athlètes et des autres personnes, est quelque chose de très important, et c'était une joie pour lui de pouvoir proposer ce service.
So, the Olympic and Paralympic pastoral care in Austria is organized in such a way that this is a service of the church for the Olympic Committee. So the church finances everything and organizes everything. But I'm officially and gladly accepted into the team by the Olympic Committee and the Paralympic Committee. And I also received the official clothing, yeah. In any case, I can say that the Olympic and Paralympic Pastoral Care in Austria is highly valued by the Olympic Committee and the Paralympic Committee, including the athletes. And it's also very important, as a national chaplain, you can also establish contacts with some athletes that continue beyond the Olympic Games. And then you can also perform baptisms and weddings. For example, in September, I married two para-skiers in Austria. Yeah, so this is also very important. If you're a national chaplain, you can also keep the contact beyond the Olympic Games. It's an advantage. Yeah.
Donc son rôle, c'est un service officiel de l'Église, un service rendu à l'équipe olympique et paralympique, mais cette équipe l'a accueilli pleinement comme l'un d'eux, et puis il sentait vraiment un accueil chaleureux, sa présence ne créait pas de tension. Il était pleinement membre de l'équipe avec l'uniforme, le même uniforme que les autres membres de l'équipe. Il a pu créer des relations avec les athlètes au point où, après les Jeux, il y en a deux d'entre eux, des Paralympiens, qui l'ont invité à célébrer leur mariage. Et c'est quelque chose qui espère va continuer cet accompagnement des athlètes.
So, this was the first part of my presentation. Now we'll continue with the second part in French. Merci.
Merci, Yonès. On va passer maintenant à Gilles, qui va nous parler à la fois de sa mission aux Jeux Olympiques et Paralympiques, puisqu'il a deux aspects différents.
Alors tout d'abord, j'espère que vous avez été bien accueillis dans le diocèse de Metz, au cœur de l'Europe. J'en suis persuadé, le projet est devenu réalité. Alors effectivement, durant les Jeux, j'avais deux missions qui était indépendante, c'est pendant les Jeux Olympiques d'intervenir en tant que psychologue du sport en dehors du village olympique. Ça, c'était une première dimension, et surtout par rapport au thème du congrès, d'intervenir au niveau du centre interconfessionnel qui était dans le village des Jeux, donc pour les athlètes paralympiques. Simplement pour préciser que j'ai une tendance à être passionné par ce que j'appelle la psychologie spirituelle, et donc de voir comment les deux facettes de cette passion peut s'exercer auprès des athlètes et auprès des collègues. Alors pour pas être redondant, j'étais plus dans la perspective peut-être de ces Jeux paralympiques. Alors tout d'abord, je tenais à rendre hommage à tout ce que Oli Guebs a pu faire pour que ce centre interconfessionnel puisse exister. Hein, je pense que peut-être vous en avez entendu parler, mais que la tâche était ardue pour que des liaisons intelligentes s'établissent entre le CIO, le Vatican et puis les autorités française. Olivier Hems, de mémoire, a pu vérifier qu'au niveau des autorités françaises, il y avait des autorités qui étaient intelligentes et d'autres qui étaient frileuses. Et donc, je pense que, en termes de diplomatie, l'existence du centre interconfessionnel est à considérer comme, comme une réussite. C'était un premier point. Deuxième point, dans la mission qui m'était conférée, j'ai beaucoup appris des relations entre chrétiens, des aumôniers chrétiens au niveau du centre interconfessionnel, et j'ai beaucoup apprécié l'esprit de compétition qui pouvait exister entre nos frères orthodoxes, nos frères protestants et puis nos frères catholiques. En général, la compétition était plutôt bien vécue, même si de temps en temps, certains de mes frères avaient tendance à dépasser les bornes. Autre remarque par rapport à l'organisation du centre interconfessionnel, je dois avouer quelques mois après que beaucoup d'événements ou de rencontres ont pu se passer en dehors du centre interconfessionnel, même si c'était interdit. Et notamment grâce à la présence proche du centre de contrôle antidopage qui était à côté du centre interconfessionnel. Et ça nous a permis de nous asseoir sur les bancs qui étaient frontaliers entre le centre interconfessionnel et puis le centre antidopage pour avoir quelques athlètes, para-athlètes, qui sont venus échanger avec nous et reconnaître la pertinence de cette présence des aumôniers. Et puis il y avait aussi, en termes de réseau, de par mon appartenance dans le champ de la psychologie, de connaître quelques personnes qui étaient au centre médical et qui ont pu être de bons conseils à certains para-athlètes pour qu'ils viennent nous rencontrer et pour que les échanges soient fructueux. Parce que ce que j'ai pu comprendre durant ces Jeux paralympiques, c'est que la publicité n'a pas été optimale pour avertir l'ensemble des para-athlètes de la présence de ce centre interconfessionnel. Mais en tout cas, de considérer que l'importance, on va dire, de cette présence au niveau du village paralympique, ça a été effectivement cette possibilité d'être au contact des athlètes para-athlètes, notamment par rapport à des tierces personnes qui étaient de bonne volonté. Quatre mots pourraient synthétiser, on va dire, les compétences peut-être à utiliser durant ces Jeux paralympiques. Ça a été une présence, on va dire, à la fois discrète et distante. Ça a été aussi une certaine forme d'humilité par rapport à ces athlètes paralympiques qui ont touché ce que pouvait être l'extrême corporel et qui favorisent ce contact avec ce que je me permets d'appeler la spiritualité. Et puis aussi de considérer que la patience est aussi un élément important dans nos styles d'intervention. Et puis, dernière piste que je voudrais peut-être indiquer, c'est rappeler que une Olympiade dure 4 ans. Et donc, tout ce qui a été mis en place au niveau des JO de Paris, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et donc, maintenant, la balle est dans notre camp pour voir comment d'ici 2026, hein, c'est demain, d'ici 2028 et surtout d'ici 2030, on peut continuer à accompagner les personnes de très haut niveau et de niveau moins haut, sachant que la présence de ce centre interconfessionnel a donné envie à des para-athlètes, à des pratiquants, peut-être de s'intéresser à cette relation riche à établir entre para-athlètes et aumôniers. Et puis, dernière perspective, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons changé de pape, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons changé de président de CIO et devenu une présidente. Et donc, je voudrais simplement rappeler que cette nouvelle présidente qui vient du Zimbabwe a, dans sa profession de foi pour être élue, utilisé la formule « je suis parce que nous sommes » et donc de rappeler que cette formule est une formule empruntée Desmond Tutu, et que il y a sûrement peut-être quelque chose à peut-être à travailler sur cette petite phrase qui n'est pas anodine et qui peut interpeller différentes formes de spiritualité sportive à venir. Voilà, donc en quelques mots, des pistes qui me restent de ces Jeux paralympiques. Et donc la vie des aumôniers continue, la vie des para-athlètes continue, et je pense que nous avons encore à cheminer ensemble. Et donc merci pour l'organisation de ce congrès à Philippe et à Pascal, dans ce haut lieu de l'Europe, la Moselle, qui se trouve à la frontière, on va dire, de plusieurs cultures qui ne peuvent que nous interpeller par rapport à cette thématique corps, psychologie et spiritualité.
Alors, ce que je
voilà, merci de votre écoute, en espérant que le son a été plutôt correct pour vous.
Oui, c'est bien, c'est passé. Alors, je vais te poser une question, mais j'aimerais compléter ce que tu as dit, parce que tu viens de dire que Philippe et moi avons organisé ce congrès, ce qui est faux. C'est Philippe, toi et moi qui l'avons organisé. Donc Gilles, malheureusement, ne peut pas être présent parmi nous pour des raisons familiales, mais il a grandement participé à l'organisation de ce congrès, des choix des thèmes, des intervenants. Donc merci à toi Gilles, c'est bien dommage que tu n'aies pas pu être là. J'aurais simplement peut-être une petite question, si peut-être tu peux nous témoigner, nous dire deux petits mots au niveau de ton accompagnement psychologique au niveau des Jeux Olympiques.
Mon accompagnement, paradoxalement, n'a pas porté sur les athlètes qui étaient en réussite, mais sur les athlètes qui ont vécu, on va dire, des petits pépins physiques, qui les ont empêchés de réaliser des performances optimales. Et donc, mon style d'accompagnement est de considérer que la plupart du temps, cette blessure ou cette fragilité momentanée est souvent un espace éminemment important pour que les athlètes se rendent compte que lorsque le corps, entre guillemets, se trouve en vulnérabilité, il y a quelque chose qui émerge de ce corps qui font que ces athlètes reconnaissent cette dimension spirituelle qui peuvent accompagner leur vie. Et donc, paradoxalement, je considère que l'accompagnement des athlètes blessés sont une formidable opportunité pour eux de développer, on va dire, un langage, ou en tout cas une expérience de vie qui nous permet d'échanger ensemble assez aisément sur les assises spirituelles du corps humain. Voilà, mais le paradoxe, c'est que la vie étant ainsi faite, au départ, mes espoirs, c'était d'accompagner ceux qui gagnent, et la vie a fait que j'accompagne plus ceux qui perdent sur un versant de leur vie et qui vont gagner autre chose sur un autre versant de leur vie.
D'accord, merci beaucoup.